Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Kikinkou, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30. Nous sommes aujourd'hui le premier week-end du mois de décembre et comme chaque premier week-end, nous accueillons le correspondant local de Motomag, Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Luc, bonjour à tous.
Comment vas-tu par ce beau temps ensoleillé, bien froid?
Ah bah, c'est pas l'authentique, mais presque. Hein.
Ça donne envie d'aller faire une hivernale, ouais.
Moins 3 ce matin, oui. Hier, j'étais en moto, effectivement, hier soir, ça pinçait, et ce matin...
Moi, j'étais en moto ce matin, je peux te dire que ça pinçait, mais c'est agréable de rouler par ce temps-là, moi j'aime bien.
Ça glisse un peu.
Si vous sortez à la moto, faites gaffe où vous mettez les roues quand même,
surtout
à certains endroits, et les pneus, ils ont du mal à chauffer, forcément, de ce temps-là, donc ça peut glisser un petit peu.
Le soleil n'est pas encore remonter, donc il y a des zones d'ombre là, il faut faire gaffe. Hein.
Tout à fait. Donc tu es venu nous parler du sommaire du Motomag du mois de décembre.
Alors c'est un double, décembre-janvier,
oui.
Le dernier de l'année. Effectivement, l'édito de Jean-Pierre Théodore, le rédacteur en chef, qui nous honore toujours d'un édito bien ciblé, bien senti, hein, Père Noël et Père Fouettard. Alors des cadeaux. Aussi des cadeaux empoisonnés, on va en parler, hein, donc qu'est-ce qui nous attend. Et puis des retours sur les salons, hein, j'en parlais déjà, le salon de Cologne le mois dernier, salon de Milan, ce mois-ci, avec énormément de présentations.
Avec des hôtesses sympathiques aussi.
Italiennes. Oh. Et puis du voyage aussi, on ira un peu plus loin que l'Italie, on ira en Inde.
Sur le toit du monde.
L'Odyssée himalayenne, là, vraiment. Et je trouve que ces articles-là, ils sont profonds. Je me rappelais Luc Cottrel, qui nous avait fait un super article, d'abord pour nous.
Hein,
c'est quand même nous qui l'avions présenté déjà à son retour. Et puis après, il a écrit lui-même des pages dans Moto Magazine. Et puis la Sibérienne... petit Luc aussi qui fait l'Afrique. Enfin voilà.
Donc et récemment aussi Eric Lobo là qui est faire un petit tour en Antarctique. Je sais pas si t'as vu.
Voilà. Bon donc effectivement ces articles là, ça nous fait voyager même si on n'a pas l'habitude de prendre la route. Au moins c'est des ressentis puis on voit que c'est très personnel. Et puis on a quand même une de nos membres qui a écrit son voyage en Grèce et qui est paru sur le site internet de Motomag. Je vous engage à aller le lire.
Tout
Christine s'écrit avec le cœur. Et puis d'ailleurs ça fait réagir. Hein. C'est amusant de voir dans le courrier des lecteurs les commentaires. Alors il y a les lectrices, mais il y a des lecteurs aussi. Hein. C'est comme l'électrique, c'est des sujets qui font réagir. Voilà, donc des sujets du mois, et puis des présentations de modèles, et surtout des idées de cadeaux.
Ok, pour Noël ça tombe bien en plus.
Voilà.
Alors t'es pas venu seul aujourd'hui, t'es venu avec Romain.
Voilà, alors j'ai effectivement, on est en petit effectif, t'expliqueras pourquoi, et donc j'ai pensé que c'était intéressant d'avoir un témoin, quelqu'un qui justement, en plus sur les essais, il y a la présentation d'un modèle emblématique de Harley-Davidson, le 1200 Sportster.
Qui a sauvé la marque plus d'une fois.
J'ai pensé à lui parce qu'il nous expliquera, il a ouvert un bouclard de moto d'entretien donc sur la Bassée depuis 3 ans, et ça tombe bien, il en a une en ce moment à l'entretien.
Donc, non, c'est pas vrai. Romain, dis-nous tout.
Si. Alors, j'ai rentré ça cette semaine en plus.
Voilà.
Gros coup de chance pour vous. Quoi, parce que,
c'est un quelle année le modèle que
c'est un 2003, donc le 100e anniversaire.
Ah
donc,
oui, il est joli comme modèle. Ouais.
Super beau.
Et c'est lequel alors que...
Alors là, c'est
custom,
le custom, sur la base custom, qui a déjà été légèrement modifié en fait.
D'accord. Donc, qui a la roue avant de 21, c'est ça?
La roue avant de 21, les pieds très avancés et le mini uphanger.
Ah oui, carrément.
Ah oui. Oui.
Et du chrome, bien sûr, du chrome à profusion.
Voilà.
Mais tu fais pas que ça, tu fais pas que l'Harley.
Ah non, je fais pas que de l'Harley, je fais absolument quasiment toute marque, quoi. Donc,
d'accord.
Pas de soucis, quoi.
On en parlera tout à l'heure. Donc comme tu disais, hein, Christophe, Jean-Yves Balois n'est pas de la FFMC, n'est pas là aujourd'hui parce que il est parti faire une hivernale, une authentique hivernale, celle des 1000 vaches, authentique justement, et on l'aura donc vers midi au téléphone pour avoir son ressenti. J'espère qu'il y a de la neige et qu'il aura pu tester ses skis parce que les dernières, il avait monté des skis sur son Rocket 2300, hein. Mais il n'a pas pu.
Alors, il s'en est pas servi.
Non, il n'y avait pas de neige.
Mais par contre, l'année d'avant, je me souviens qu'il nous a ramené des photos. C'était impressionnant. Hein. Un vent, mais pour avoir déjà pratiqué le Massif Central dans ces périodes-là, ça souffle. Hein.
Ouais, en plus, si c'est la même température qu'ici, là-bas,
ouais, il doit faire bien froid. C'est l'effet ressenti. Hein. C'est pas un peu comme au Canada. Tu peux avoir une température indiquée au thermomètre. Quand tu es dans le vent, c'est plus du tout la même chose.
Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, on aura quand même un autre témoin de la FFMC, on va dire. Hein. C'est Marc Brizic, qu'on appellera au téléphone aussi vers... 11h30 et qui nous parlera notamment des différentes opérations des Pères Noël. Il y en a une à Seclin, il y en a une à Noël-Noy-Mory, mais qui reviendra également sur les actions de la FFMC, notamment en direction de la MEL, la métropole européenne.
De Lille.
De Lille. Voilà, tout à fait. On finit ce tour de table peut-être en cédant à la technique et à la programmation musicale, monsieur Laurent Rodier.
Eh bien, bonjour à tous, c'est parti.
Musique.
Me out, please.
morceau de musique bien sympathique pour se réveiller doucement avec Radio Campus Kick un coup, le magazine de la moto. Alors je lis dans le dernier Motomag que le contrôle technique revient, Christophe. C'est quoi cette histoire?
Et oui, alors contrôle technique, c'est, en fait Motomagazine a été invité au circuit Carole dans le cadre d'une campagne de la sécurité routière sur les circuits, hein, donc une campagne d'affichage qui va être faite dans 20 circuits français. Et donc Motomagazine a rencontré Manuel Barbe, le délégué à la sécurité routière. Et donc, on a profité pour lui poser les questions qui fâchent, hein, parce que pratiquement tous les mois, on parle du contrôle technique. Hein. Donc, il confirme que le contrôle technique moto est dans les circuits pour une mise en place fin 2017, donc pratiquement dans un an maintenant, que les arrêtés ministériels donc, doivent être précisés, mais ils doivent avant être validés par le Conseil d'État. Que ce contrôle technique ne sera pas que visuel, hein, puisque ça avait été question.
Oui, tout à fait.
Et puis, sa périodicité, en fait, il sera nécessaire pour les motos de plus de 2 ans, mais au moment de la revente, uniquement. Mmh. Hein. Et donc là, la question aussi du tarif, on parlait de 50, on dit ça sera 50, 70 euros. Mmh. Et surtout, se pose la question de où faire ce contrôle technique.
Ouais, parce que comme il ne sera pas que visuel, il faut des équipements.
Voilà, donc ça oblige effectivement les installateurs, enfin les contrôleurs plutôt, à s'équiper de matériel et aussi à densifier le réseau. Donc c'est un petit peu ça aujourd'hui qui semble poser question. Alors il élude la question en disant on y travaille, hein, mais on imagine bien que le parc roulant... les transactions, puisqu'en fait là ça sera bien au moment des transactions et la couverture du territoire, ça se bouscule peut-être pas au portillon, enfin au niveau des contrôleurs.
Donc, parce que ça va demander un investissement en termes de matériel et qui demandera énormément de temps, d'années pour pouvoir être amorti, et donc beaucoup de centres de contrôle technique, notamment dans des zones rurales, n'auront pas les moyens de s'équiper. Donc tu devras parfois faire plus de 200 bornes pour faire ton contrôle technique, ce qui n'est pas du tout raisonnable.
Voilà, et puis bon, on sent poindre quand même dans les propos qui sont rapportés par Motomagazine une certaine mauvaise foi de la part du délégué à la sécurité routière, parce qu'en fait, il dit, quand je vois lors des contrôles de police qui sont effectués que certains motards affirment bien entretenir leur véhicule, mais qu'ils voient aussi des gens investir beaucoup dans les accessoires et quelquefois au détriment de l'équipement de sécurité... Bon,
c'est la mauvaise foi.
Oui, on se demande. Alors,
en fait, ce qu'il veut faire, il veut chercher à plaire aux associations de vertu routière contrariées par la fin des 100 chevaux, quoi. C'est ça.
Voilà. Alors, effectivement, la FFMC contre-attaque. Elle a toujours été sur le pont pour contrer, en fait, cette situation-là. Avec des victoires, hein. Il y a quand même eu au niveau européen des avancées qui avaient été obtenues il y a 2 ans. Bon, là on sent qu'on est quand même à un point assez essentiel de décision. Et donc, France Wolf, la coordinatrice du Bureau national, est également interviewée dans le journal et qui rappelle que les défauts de techniques sur les véhicules qui ont des accidents représentent moins de 0,7% des accidents de roue.
Donc, c'est pas l'état de la moto qui est en jeu dans l'accident, en fait.
Voilà. Et donc, elle dit il faudrait d'abord écouter les usagers, hein. Et les centres de contrôle FFMC partout en France peuvent préventivement prévenir effectivement les usagers des désordres. Enfin, je suppose que tu vois, toi, en tant que professionnel romain, des motos sur lesquelles t'avises et t'avertis tes clients sur... quand tu vois passer les machines.
Je fais toujours des points de contrôle, on va dire, particuliers sur la bécane. Je contrôle les pneus, les freins, on va dire la base, en fait, tout ce qui est transmission, tout ça, pour être au moins prévenir le client s'il y a un défaut, s'il y a quelque chose qui va pas sur sa moto, qu'il le sache au moins, parce qu'après, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas particulièrement en mécanique, et donc du coup qui roulent et qui ne prêtent pas particulièrement attention à tous ces organes importants, quoi.
Donc, oui. On discutait hors antenne là justement de la moto dont on parlera tout à l'heure, là, la Sportster. Donc il se trouve que son propriétaire revient à la moto, il vient d'acheter cette moto, et première chose qu'il fait, il la confie à un professionnel
bah, pour,
pour bah voilà, avoir une moto carrée au niveau de
propre et voilà quoi.
Et fiable.
Surtout ça, bah oui, carrément. Bah c'est, j'ai en moto, on n'a pas le choix. C'est soit la moto est nickel chrome, soit c'est source aussi d'accident quoi. On a que deux roues, il y a que ça qui nous relie au sol, donc enfin voilà quoi. C'est, pour moi, ça me paraît primordial quoi.
Ouais, puis on est aussi plus fragilisé.
Aussi, ouais. Ouais, donc.
Alors, concernant la FFMC, France Wolf rappelle que la FFMC, avec ses antennes départementales, qui sont quand même au nombre de 85, a déjà cette couverture nationale et donc peut faire un travail, je dirais, auprès des usagers, justement par rapport à la sécurité, la prévention et la qualité de roulage des machines. Alors, on voit que les gens font contrôler leur véhicule. Le parc roulant en moto, c'est des petits roulages. Hein. On est, je sais plus, la moyenne, c'était, on en avait déjà parlé à l'antenne, c'était 3 000, entre 3 et 4 000 kilomètres par an. Ouais. Donc, on doute pas que dans les mois qui viennent, la FFMC va encore mobiliser pour lutter contre
cette mesure inutile,
effectivement, qui est sur le point.
Qui n'est pas une mesure d'enjeu de sécurité routière, mais bien un enjeu financier. C'est évident. C'est bien une question de pognon, quoi, comme d'habitude. Et faut pas oublier qu'en 2017, il y a des élections.
Voilà.
Et que les motards sont aussi des électeurs.
Alors, tout à fait. Et c'est aussi à ce moment-là. Alors là, on a pléthore de candidats. On va pouvoir aller les interroger un par un. Ça va faire effectivement le buzz. Je crois qu'on aura encore de quoi dire sur le sujet.
Ouais, tout à fait. Ouais. On va passer un petit morceau de musique, Christophe. Et après, on continuera avec notamment les magnifiques nouveautés du Salon de Milan.
Yeah.
Vous êtes bien sur Radio Campus, Kikinkou et la moto. Dis Christophe, au Salon de Milan, il y avait quelques néo-rétro sympathiques encore.
Oui, alors tu disais tout à l'heure en lançant le sujet, Salon de Milan, il y a des mannequins sympathiques, des hôtesses sympathiques, effectivement. Et à Motomag, ils aiment le Salon de Milan.
Ouais, hein, bah, tu m'étonnes.
Pour
tu
diverses
m'étonnes.
Raisons, entre autres celle-là.
Ouais, parce qu'on y mange des pâtes et qu'ils aiment bien les pâtes. Ouais,
voilà, puis les Italiens, ils sont avenants.
Hein, okay, donc, bella, si.
Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement, tu parles des néo-rétro. Elles ont fait leur show, hein, des nouveautés, pas moins de 8, des scramblers, des café racers, des classiques et des bobeurs. Hein. T'as vu la bonne ville en bobeurs?
Ouais, ouais, ouais.
Qu'est-ce que t'en penses?
Elle était exposée au salon Moto Légende.
D'accord.
En nouveauté d'ailleurs. Moi je dis, une moto c'est fait pour rouler d'abord. Donc j'attends de l'essayer, de voir ce que ça donne sur la route. Ouais. Même si c'est un bel objet, c'est sûr. Je voudrais savoir ce que ça donne. Ouais, parce qu'en plus, le moteur risque d'être sympa, puisqu'il c'est toujours le 1200. C'est le 1200 de la bonne ville de la T120, par exemple.
Oui.
Mais il a été retravaillé pour
absolument.
Avoir plus de couple en bas, donc ça doit être
c'est
super sympa à l'accélération, tu vois.
Tout à fait.
Tu dois te rapprocher de plus en plus du Harley, à mon avis, en termes de sensations.
Ouais, t'en as pas eu une dans ton parc, là, qui est passée
En Triumph, en 1200, non, j'ai fait un 1700. Le Thunderbird.
D'accord.
Ah ouais.
Oiseau
de feu, ouais.
C'est
ouais.
ça. Mais
c'est un gros bicylindre, hein, il marche bien.
C'est énorme. Ouais. C'est monstrueux.
Mais le 1200, donc, dont tu m'attends le repropriétaire, c'est vrai qu'il a. C'est ce que tu disais. Je t'avais fait d'ailleurs la présentation à l'antenne ici,
oui, hein, oui,
du
oui,
modèle.
Oui, oui.
Donc il a vraiment du caractère. Et,
voilà, tout à fait, ouais.
Et à tous les niveaux.
Le moteur est sympathique.
Ouais.
Et c'est un bel objet bien fini, quoi.
Voilà. Et donc les constructeurs, justement, à partir d'un modèle existant, aujourd'hui, nous gratifie d'un ensemble. Bah, en fait, ils ratissent large, hein, et donc ils essaient de.
En utilisant la même base pour réduire les coûts, forcément.
Tout à fait.
Donc et tu donc, vois bien avec Ducati, c'est ça que tu veux dire, par exemple.
Entre autres, hein, mais il y a
BM
pas que.
Aussi,
mais
BM aussi.
Voilà,
ah oui,
BM.
Gêne pas, hein, franchement.
Avec sa 1200 GS aujourd'hui, qui nous sort trois modèles différents, trois conceptions un petit peu différentes. Avec bien sûr, ils jouent sur la cartographie, les équipements, mais pour ratisser un petit peu plus large au niveau de leur clientèle. Hein, donc
le clin d'œil là, de la GS, là, il est magnifique. C'est au 80S pardon, de l'époque. Et je trouve que c'est très bien fait, tout en gardant cette modernité, bien sûr.
Oui.
Et je trouve que c'est vachement bien fait. C'est une très, très bonne idée.
Et puis, bon, moi j'ai un tempérament un peu nordique. J'ai apprécié la présentation des Husqvarna. Hein, parce que
c'est particulier.
C'est tout à fait singulier. Vraiment, je vous engage à découvrir ces deux modèles qui sont finalement très bien placés sur le plan du coût, mais au niveau du design, qui sont quand même assez particuliers.
C'est osé, ouais. Hein, ça casse un peu les lignes convenues, quoi.
Et alors, donc, on voit cette tendance quand même des constructeurs aujourd'hui à sortir des modèles premier prix en gamme, donc on descend en cylindrée, Suzuki, la Vestrom qui existe en 650 et en 1000, aujourd'hui se décline en 250, pratiquement sur la même moto, hein, donc et là c'est un ticket d'entrée à 4 500 €, alors évidemment il faut l'acheter pour l'usage.
Voilà. Au départ ces machines là étaient plutôt pour, enfin pas pour le marché européen, c'était plutôt pour notamment le marché asiatique, et puis on s'aperçoit qu'effectivement les constructeurs nous les proposent aussi. Peut-être que c'est un signe de la crise économique.
Tout à fait. Et l'autre exemple, c'est BMW qui nous sort un 300 cm3, hein, donc fabriqué en Inde. Et donc, c'est quand même une première dans la marque qui aujourd'hui propose un modèle d'entrée de gamme dans une cylindrée modeste.
Et signe des temps aussi, d'habitude au Salon de Milan il y a toujours des équipements, notamment des casques hors de prix qui sont exposés, et là cette année il y avait aussi des modèles beaucoup plus accessibles au commun des mortels.
Très bien l'introduction de l'équipement, parce qu'effectivement j'avais prévu d'en parler. À côté des machines, il y a aussi des équipements, et donc il y a des équipements, j'aime bien le côté un petit peu high-tech ou nouvelle découverte de produits, et donc on sent qu'il y a de la fonctionnalité dans tout ce qui est proposé. Le bon exemple, c'est Shad, qui propose en fait un top case à deux volumes. Bon, ça existait déjà pour les sacoches. Hein, ils équipent les BMW avec des sacoches extensibles. Hein, on va dire une pour la ville et une pour pour le départ en voyage, et bien là, ils sortent un top case qui peut être à géométrie variable en fonction de l'usage auquel on le destine. Et j'ai trouvé ça effectivement tout à fait chouette. Alors bon, après, vous avez le nouveau Akrapovic, bon, 1 400 €, ça peut être beau pour ce prix-là, mais surtout efficace. Et puis un gilet airbag que j'ai trouvé intéressant, qui se présente un peu comme une... c'est carrément une dorsale, et qui se glisse donc sous le blouson, et qui... on sent là aussi qu'il y a une évolution très rapide dans les modèles, dans le temps de réactivité des équipements.
Vivement que la TVA soit abaissée sur les produits de sécurité quand même, non ?
Oui, tu parles de TVA, je reviens tout à l'heure sur l'interview du délégué à la sécurité routière, ouais, parce que ça lui a été dit.
Ouais.
Et c'est aussi encore une réponse à la mort-moi le doigt, comme on dit. parce qu'en fait, il dit, quand je vois les gens qui investissent effectivement dans des pots non homologués à 900 €, ils ne voient pas pourquoi l'État ferait un effort sur...
sur la télé.
Suspicion généralisée.
C'est casser l'image du moteur, comme d'habitude.
Alors, on y reviendra tout à l'heure dans une autre séquence, sur les solutions que propose la FFMC par rapport justement aujourd'hui à tout ce qui est pris en mesure pour faire dissuader finalement de pratiquer la moto, en se disant on va faire baisser les accidents de moto en diminuant le nombre de pratiquants.
c'est un peu la logique
aujourd'hui qui semble retenue.
Donc, on va voir les 10 solutions proposées par FFMC tout à l'heure après le petit morceau de musique.
Ah! of hell. Queen of hell. Queen of hell.
Il y a qu'à Kikinko qu'on a des bruits de moteur aussi jolis que la musique qui passe à côté. Dis-moi, Christophe, quelles sont ces 10 solutions proposées par la FFMC ?
Alors, on parlait de sécurité routière et effectivement, la Moto Magazine ressort dans un dossier consacré au sujet 10 solutions. Alors, c'est un petit peu un condensé de tout ce qui a été dit pendant l'année, justement, sur les mesures et les solutions que la FFMC est en mesure d'apporter. Alors, il faut rappeler, donc, c'est la première fois depuis 35 ans que l'accidentologie sur les routes françaises est en hausse. 2 années consécutives de suite. Ça n'était jamais arrivé, donc, depuis 35 ans. Mais dans le même temps, la mortalité des deux roues motorisées a reculé de 12,8% au cours des 5 dernières années. Donc, il n'y a pas de causalité dans l'augmentation de l'accidentologie, de la mortalité des deux roues. C'est pas les deux roues qui viennent impacter ça. Mais néanmoins, pour les pouvoirs publics, les motocyclistes ne représentent qu'une faible proportion du trafic et une grande proportion des tués. Et donc, ça nous est aussi insupportable. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure en terminant le sujet. Comment réduire le risque inhérent à l'absence de carrosserie des deux roues ? Bah pour les pouvoirs publics, c'est en diminuant leur nombre.
Oui, tout simplement.
Voilà. Et donc, toutes les mesures aujourd'hui visent le port du gant. On en reparlera tout à l'heure avec notre interlocuteur de la FFMC. Mais c'est bien une mesure qui est susceptible aujourd'hui d'ouvrir la voie. En Belgique, ils sont déjà obligés d'avoir des chaussures montantes. Mais demain, ça sera l'airbag, etc. Ça, des mesures qui seraient contraignante.
Et comme ça, on oublie l'état des routes complètement pourri et beaucoup plus dangereux. Quoi.
Voilà. Et rappelons que les assureurs eux-mêmes le disent, hein, les usagers des deux roues ne sont pas majoritairement responsables des accidents dont ils sont en revanche toujours les victimes. Et donc, j'ai fait un reportage là sur une action de la FFMC 59 et 62 après le décès de deux personnes, hein, donc c'est un cycliste et une jeune motarde. Mmh. Et donc, sur les commentaires justement sur le site internet de Automag, on a quelqu'un du Var qui a listé sur un mois tous les accidents de deux roues avec les rubriques. Et on est toujours voiture contre moto et souvent un décès à la clé du motard. Donc là, c'est exactement ce qui est rapporté dans le...
Ouais, puis avec le problème de la voiture où effectivement, en plus de la drogue et de l'alcool, il y a aussi tous ces objets connectés, notamment le téléphone. Et les automobilistes passent beaucoup de temps à leur téléphone en conduisant.
Tout à fait. Alors, les mesures sur lesquelles donc Motomag revient dans son dossier sécurité routière, c'est l'extension du permis A2. Je rappelle, si vous ne l'avez pas vu passer, effectivement, je l'ai découvert moi dans les pages du journal. Aujourd'hui, toute personne qui passe le permis a une période probatoire de 2 ans avec bridage du moteur. Donc à 47,5 chevaux, 35 kW, et au bout des 2 ans, donc une formation de 7 heures, formation complémentaire, pour ensuite avoir le permis A pleine puissance.
Histoire de bien dissuader. Quoi.
Voilà. Et donc la FFMC travaille avec le Conseil national de la sécurité routière et a fait des propositions dans le cadre d'un projet qui s'appelle Projet Sécure, et qui propose donc de sensibiliser, former et accompagner le conducteur à tous les âges de la vie, et notamment dans la période justement entre 6 mois et 2 ans, après l'obtention du premier permis, par des rendez-vous d'expérience, RVE, de 2 heures. Donc ça serait une façon de coacher en quelque sorte.
D'accompagner.
Voilà, le jeune permis, alors jeune,
quel
moins jeune.
Quel que soit son âge, bien sûr.
Voilà, quel que soit son âge, de façon bon. Cette mesure, aujourd'hui, n'a pas abouti, n'a pas été suivie, mais elle fait partie des propositions qui ont été formulées donc, lors de l'assemblée plénière du CNSR. C'était déjà il y a un an et demi. Aujourd'hui, c'est lettre morte. Donc voilà une première proposition. Deuxième proposition, les restrictions circulation. On parle de plus en plus parce que là, sur Paris, à partir du 16 janvier, j'ai entendu ce matin à la radio, donc la vignette pour circuler dans les zones restreintes. Et donc, on en parlait tout à l'heure en antenne, une étude donc avait montré que les embouteillages diminueraient de 40% si seulement un automobiliste sur 10 changeait sa voiture pour un deux roues motorisé.
Ouais. Je dirais, 40%, t'imagines, c'est énorme.
À Lille, la métropole de Lille. Alors bon, on peut en discuter, hein, y a le facteur plan de circulation lillois. Bon, n'empêche que y aurait effectivement moins de véhicules et plus de deux roues. C'est sûr que ça apporterait déjà une réponse. Et puis surtout de favoriser le stationnement des deux roues en ville. Et donc la FFMC a une mesure concrète qui viserait donc à équiper les carrefours de zones de stationnement. Alors c'est surtout vrai sur Paris, mais on imagine que ça sera aussi dans les grandes métropoles un problème qui surviendra dans les années qui viennent. Donc c'est d'équiper des zones de stationnement réservées donc d'environ 5 mètres de long, réservés aux deux roues, qui ne compromettent pas la visibilité sur le carrefour, mais qui permettent surtout aux deux roues de se stationner. Mmh. Hein, je ne sais pas si vous avez eu, Romain, tu es déjà descendu sur Paris, tu n'as pas eu à stationner.
Je me débrouille pour jamais m'arrêter là-bas.
Bon, ok. moi, j'ai été suivre une formation, je me souviens qu'il y avait deux personnes du stage là, qui s'étaient fait aligner, bon, sincèrement. Et en plus, ce n'était pas dans Paris même, hein, c'était dans une ville limitrophe. Là, je trouvais que c'était quand même... Il y a deux poids, deux mesures. Hein, les règles sont pas appliquées de la même façon dans le Grand Paris par rapport à ce qu'on vit en province. Alors, le port des gants obligatoires. Troisième mesure qui est passée en revue. Je pense qu'on se réserve ça tout à l'heure. J'en ai déjà parlé, mais on le redéveloppera avec, je ne sais plus, de Marc.
Marc Brizy de la FFMC. Ouais, voilà, tout à fait, qu'on va appeler dans un instant.
Qui interviendra. Et puis, je l'évoquerai un quatrième point tout à l'heure dans les mesures avec la commission juridique qui est également examinée en fin de journal concernant l'obligation de délation. Hein, vous savez que si vous êtes flashé, enfin tout au moins votre moto avec donc un radar automatique, vous êtes évidemment verbalisé, mais si c'était pas vous qui étiez le pilote, vous devez normalement donc énoncer la personne qui conduisait le véhicule, donc la moto. On y reviendra tout à l'heure. Donc en résumé, pour conclure sur le sujet, former donc aux spécificités du deux roues les jeunes permis, mais aussi accompagner le conducteur aux différentes étapes âge de sa vie, aborder la sécurité routière donc sous l'angle de la psychologie, de la sociologie. Je l'ai pas dit, mais effectivement faire connaître aux automobilistes le risque moto et puis de la même façon surtout pour les jeunes qui ont peut-être pas la même approche la pratique de la moto, faire connaître les situations à risque, intégrer les deux roues à moteur dans les plans d'aménagement routier, donc ça je l'ai évoqué, dégager les abords de carrefour, la sécurité des rails. Tu en parlais, l'état des routes.
Ouais, l'état des routes.
Il y a une photo, d'ailleurs, en page 91, il y a une photo qui est impressionnante, je ne sais pas où elle a été prise. Ouais. Mais
c'est même plus une ornière, là. C'est carrément une crevasse. Ouais.
Non, sincèrement, là, la FFMC pourrait matérialiser ça avec du fluo, c'est assez impressionnant. Et puis, convaincre de s'équiper de vêtements de qualité, qui, je le rappelle, sont toujours testés dans la rubrique consommateurs de Moto Magazine, et vous êtes donc à suivre.
Et on aperçoit que c'est pas forcément ceux qui coûtent le plus cher qui sont les plus efficaces dans les équipements.
Alors effectivement, et puis il y a des équipements différents et variés forcément, mais on parle des gants. Là il y a des blousons le mois dernier qui étaient testés. Après vous avez aussi les conditions de roulage. On en parlait ce matin par rapport à la température. Bon. J'ai découvert les blousons chauffants. On parlait tout à l'heure de scooters avec selles et poignées chauffantes. Donc on sent qu'on est dans l'équipement de plus en plus de qualité. Et puis surtout, inviter les assureurs, dernière mesure donc proposée par Moto Magazine, à proposer le remboursement de l'équipement du conducteur et son passager. Je rappelle que quand vous avez un accident, vous pouvez obtenir le remplacement du casque tout simplement. Je le sais parce que je ne l'ai pas fait au moment où j'ai eu, j'aurais dû le faire. Hein, et donc, ce sont des mesures simples, de bon sens, et qu'il faudrait voir appliquer.
Merci pour ces indications intéressantes. Donc, on va voir Marc Brizy tout à l'heure, après ce petit morceau de musique, qui restait avec nous. Et on retrouve tout de suite au téléphone Marc de la FFMC. Marc, tu es avec nous ?
Oui, bonjour.
Merci de prendre un peu de temps pour nous parler donc des actus de la FFMC, mais notamment d'abord des opérations Père Noël.
Oui, ben merci à vous de nous donner la parole tout d'abord, et puis merci pour vos émissions qu'on écoute fidèlement. Effectivement, la FFMC va faire des opérations « Le Père Noël est un motard ». Il y en a déjà eu une à Dunkerque récemment. Il va y en avoir une dans la zone moto à Seclin, en face du café Le Zen.
C'est quand? C'est samedi, prochain,
samedi,
c'est ça?
Ouais, ouais, ce sera samedi le 10. C'est une collecte de jouets ou de couches à destination des Restos du Cœur.
Donc c'est quoi le principe? Alors les motards, ils viennent apporter des jouets?
Les motards, ils viennent entre 10h et 17h. Toute la journée, ce sera ouvert pour recevoir les cadeaux que les motards apporteront et qui seront ensuite retransmis à l'antenne des Restos du Cœur, voilà.
D'accord.
Pour être bien sûr distribué aux enfants qui en auraient pas sinon.
Ok, ouais. Il y a une autre manifestation comme ça aussi, je crois.
Ouais. Il y en a une qui est organisée par Freddy à Aulnoy-Aymeries. Et lui, il a pris le modèle d'une balade moto avec ses amis. Ils vont aller directement chez les enfants distribuer des cadeaux de Noël.
Et où ça?
À Aulnoy.
Oui, oui, non, mais je veux dire, ils vont chez les enfants, tu veux dire, dans les maisons, dans les hôpitaux?
Ouais, c'est ça, exactement, dans les maisons. Je sais pas s'ils vont dans les hôpitaux, mais dans les maisons, c'est sûr, ils ont identifié déjà des gens à qui ils vont amener des jouets, des cadeaux, voilà.
D'accord, et donc ce sont des cadeaux qu'ils ont récupérés aussi auprès des motards?
Évidemment, bien sûr, c'est ça le principe de la journée, le Père Noël est un motard, hein. C'est aussi un peu pour véhiculer nos idées par la même façon et faire connaître notre mouvement.
Donc si on est intéressé là par la balade de Freddy, comment on fait pour le contacter?
Alors, là pour Freddy, pour le contacter, j'aurais du mal à être plus précis. Bah, il est sur Aulnoy-Aymeries, je pense que... Oulala, c'est une colle que tu me poses.
Excuse-moi, t'as pas un site internet, un truc comme ça?
Non, j'ai pas de site à proposer. Il s'appelle Freddy Dupont, bah, il est sur la zone là-bas. Je pense qu'il y a moyen de le contacter quand on est dans ce coin-là. Ouais,
on mettra les coordonnées sur notre Facebook et sur notre site internet.
On tape Freddy Dupont sur internet et je suis sûr qu'on trouve...
Motard, on le noie à Père Noël, c'est bon.
Voilà.
Je vais essayer de me les procurer d'ici là et de vous les faire passer.
Super.
Et bah sinon, l'actualité de la FFMC pour l'instant, bah comme vous l'avez très bien expliqué à travers l'article de Motomag, hein, entre autres pour le problème des gants, du port des gants obligatoires, la FFMC elle est toujours plutôt pour convaincre que pour obliger par des lois. La plupart des motards sont déjà convaincus d'ailleurs de l'intérêt de porter des gants efficaces, hein. C'est pas vraiment le problème, c'est plutôt une mesure répressive de plus qui vient s'ajouter à d'autres, et puis en attendant les autres qui suivront, et ça fait l'objet d'un article dans Nord Littoral avec notre chargé de communication, la Pierre Touvenot. Et ça fait l'objet d'articles aussi dans la presse motarde, mais les motards savent bien qu'ils doivent s'équiper. Le problème, c'est plutôt, ben, comme vous l'avez signalé, le coût de ces équipements qui n'est pas toujours pris en charge par les assurances. C'est aussi le fait qu'on nous refuse régulièrement une baisse de TVA qui faciliterait l'accès aux équipements de protection pour les jeunes motards qui commencent, hein. Mmh. Et puis c'est aussi qu'on trouve toujours de l'argent pour bâtir plus de ralentisseurs, de dodanes, d'obstacles, on va dire, à la circulation, mais pas pour entretenir le réseau. Et donc c'est un autre de nos sujets pour l'instant. On essaye de rencontrer les responsables, par exemple, de la métropole Lille-Europe, pour leur parler de la conduite moto, pour leur demander de faire un effort d'adaptation des équipements aux motards. Oui. Parce que voilà.
Oui, Marc, quand j'ai commencé à écrire pour Moto Magazine, je me souviens, la FFMC m'avait invité à Motard d'un jour. Ouais. Est-ce qu'il y a des opérations récentes ou futures là, qui sont prévues de ce type?
Oui, Motard d'un jour, ça existe toujours.
Oui.
On rencontre un gros problème, c'est qu'on envoie beaucoup de lettres aux responsables politiques. Et on obtient des réponses de certains responsables techniques au niveau régional. On a déjà fait rouler des gens de la MEL ou des maires ou des adjoints ou des responsables techniques. Mais on a beaucoup de mal à toucher des responsables politiques d'un certain niveau. Mais sinon, oui, cette action-là, elle existe toujours. Elle se passe plutôt en fin de printemps, bah, pour des raisons de climat, pour promener des gens qui sont pas du tout habitués à la moto, on veut pas les emmener quand il fait froid ou quand ça glisse. Mais ça se fait toujours, et on est toujours d'ailleurs en recherche de contact avec les responsables politiques pour leur parler de notre façon de considérer les aménagements, pour leur dire aussi qu'ils devraient mettre un petit peu de l'argent des amendes, ils devraient le mettre dans l'entretien des routes qui se dégradent continuellement depuis que la responsabilité a été confiée
Collectivités territoriales.
Voilà, collectivités territoriales. Hein, l'État s'est désengagé, mais maintenant, on voit bien que le déficit d'entretien commence à être inquiétant.
D'ailleurs, en parlant d'aménagement, je crois que vous avez réussi à faire aménager un rond-point récemment sur Bailleul, alors, c'est ça?
Ben, c'est pas encore fait. On a, à la suite de l'accident d'un membre de la FFMC, un accident grave, hein, qui a eu lieu, pas vers Bailleul, mais plutôt près de Berg, à la sortie de l'autoroute, on a fait un dossier vers les autorités pour leur demander qu'il y ait un aménagement de rond-point qui soit fait, non pas parce qu'on aime les ronds-points, mais pour éviter que des véhicules coupent la route en essayant de raccourcir leur parcours, quoi. Et donc, soit il y ait un aménagement sous forme de muret qui soit fait, soit un aménagement de rond-point pour obliger les véhicules à aller chercher le rond-point avant d'engager l'autoroute et de cette manière pas couper la route aux motards. Là, il y a eu un exemple avec un accident grave qui pourrait se reproduire. Il y a d'autres endroits aussi où on intervient pour demander à ce que la vie des motards soit prise en compte dans l'aménagement des routes.
Oui, moi, je formule une proposition là tout à l'heure quand tu exposais les responsables politiques. Je me souviens que le mois dernier, sur la manifestation, le retour de manifestation qu'il y avait eu à Paris, dans la manifestation, il y avait un élu, un maire d'une commune limitrophe de Paris, justement, sur les plans de restriction de circulation, qui est motard. Et donc, ça vaudrait peut-être le coup de recenser, justement, nos élus, nos responsables politiques, qui sont même motards, et peut-être obtenir avec eux un appui. Et je pense notamment au plan de circulation lillois, hein, qui fait problème aujourd'hui dans la métropole lilloise et qui pourrait être examiné au niveau métropolitain avec l'aide justement de personnalités de ce type.
Ben, c'est pas une mauvaise idée. Je sais que M. Xavier Bertrand, il est, paraît-il, motard. On va essayer de profiter de cette qualité-là pour l'approcher sur ces sujets-là. Sur l'île, on a des difficultés à contacter les responsables politiques. On a du mal à être entendu. C'est vrai qu'on souhaiterait leur parler, pas pour uniquement pour râler, mais pour être constructif et puis pour essayer d'orienter les aménagements qui doivent être faits vers une meilleure place pour les motos et une plus grande sécurité pour les gens qui circulent, parce que le motard, il n'est guère qu'un usager fragile parmi d'autres. Et quand les aménagements sont dangereux pour nous, bah, ils le sont bien sûr encore plus pour les cyclistes ou pour les piétons.
Mmh, tout à fait. Et si on souhaite rencontrer les gens de la FFMC, parce que on veut aussi adhérer aux idées, comment on peut faire
Alors là, c'est très très facile. La plupart du temps, tous les vendredis, sauf fête carillonnée, on se retrouve le soir à partir de 19h au, je crois que c'est 145 rue nationale, c'est la délégation de la mutuelle des motards. On s'y retrouve le soir, c'est le conseil d'administration chaque dernier vendredi du mois, mais c'est toujours ouvert, c'est-à-dire tous les motards qui veulent venir dire bonjour, ils sont bienvenus, il n'y a aucun problème.
Et éventuellement adhérer s'ils sont intéressés, quoi.
Ils peuvent adhérer, d'autant plus que là on va mettre en place la nouvelle assemblée générale au début de l'année prochaine et qu'on va relancer les adhésions, bien sûr.
C'est février, je crois, hein, c'est ça, 23 février, un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Mais on en reparlera d'ici là, on aura l'occasion de rameuter les troupes d'ici là.
Jean-Yves sera rentré de l'authentique.
Exactement. L'authentique, il est au 1000 vaches.
L'authentique, ouais, tout à fait. On va l'avoir au téléphone tout à l'heure.
Ouais, on
passera ton bonjour.
J'espère qu'il a emmené un chalumeau pour dégeler son moteur avant de partir.
Il a même ses skis, alors, c'est bon.
Ah ouais, je sais qu'il emmène ses skis, mais il m'a jamais parlé des bâtons. Je sais pas s'il emmène des bâtons.
Ah non, mais les skis, il les attache sur la moto, hein. Il n'y a pas besoin de bâtons. Ah oui.
Ah d'accord. Ah,
il faut voir.
C'est ça qu'il a des supports bizarres de chaque côté.
Exactement. Voilà, c'est ça. Je les ai présentés dans Moto Magazine. Tape sur Internet, je sais pas ce que tu vas trouver, mais c'est impressionnant.
Jean-Yves, c'est mon grand copain, puisqu'on se retrouve toujours à la FDM. Il fait partie de la FDM. Et donc, évidemment,
la roquette bleue. Écoute, Marc, c'est un plaisir de discuter avec toi. On doit justement appeler Jean-Yves dans quelques instants.
Chouette.
Merci de ton appel et de ton témoignage.
Ben, merci à vous de votre intérêt pour la moto et de tout ce que vous faites toutes les semaines, même quand on n'est pas là.
Ah, on partage tous la même passion. Musique.
Voilà. Allez. We'll be right back.
you nearer when it's spiritually rare. I won't be a failure. Say what? I won't be a failure. So what? Down at the riverside, you never know what you're gonna find. You dearer, when it's beautifully rare. Give me beautifully rare. Give me beer for Lyra.
Et de Marc Brizy de la FFMC, on va passer à Jean-Yves Balois qui est aux mille vaches, à l'authentique. Jean-Yves, t'es avec nous?
Oui, oui, salut tout le monde, salut Marco.
Tu vas bien?
Je veux cours. Alors oui, effectivement, je ne suis plus tout à fait aux mille vaches puisque déjà les mecs, à partir de 6h du matin, ils pliaient bagages et ils rentraient. Là, je suis sur la première aire d'essence sur la 75 après Issoire.
D'accord.
Donc, on voit tous les mecs qui reviennent des mille vaches, qui s'arrêtent pour faire le plein.
Comment s'est déroulée cette concentre cette année?
C'était bien, un temps superbe. Il a fait moins 6, moins 7 la nuit dernière, enfin la nuit d'avant, la première nuit. Dans la tente, il faisait moins 1,5. Cette nuit-ci, c'était beaucoup plus chaud, il faisait 3 degrés dans la tente, mais c'était plus humide, donc une sensation de froid beaucoup plus grande.
Et de la neige, t'as eu de la neige quand même?
Eh non, pas de neige du tout, j'ai pris les skis, tout le monde était équipé pour la neige, et rien du tout, une tempête de ciel bleu.
Voilà, les cars vont rouiller alors.
Ouais, c'est pas... Va falloir choisir un autre endroit.
Bon, et la remorque, elle est tenue?
La remorque est tenue, elle n'a pas cassé son bras, comme d'habitude. non, tout est bien.
Bah oui, mais c'est ce que c'est. Voilà ce que c'est de prendre les bagages des copains.
Bah, même pas, non, je suis parti tout seul.
Ah bon, alors.
Tout seul, donc. Mais bon, c'est vrai que la remorque est pleine. À mon âge avancé, il faut son petit confort, il faut un fauteuil, il faut. Le réchaud, enfin bref, il faut les skis, il faut la double duvet, etc. etc. Donc il y a pas mal d'équipements, la moto est chargée comme une mule, il n'y a pas de problème.
Et il y avait du monde cette année à l'Authentique?
Il y avait 1200 inscrits.
1200
Ouais. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait moins de bécanes intéressantes. Parce que, voir DGS, BM, savait, on peut aller n'importe où, il suffit de trouver une pierre, on en trouve une. Donc, c'est des bonnes machines, hein, je dis pas le contraire, mais elles ont le défaut d'être un peu trop courantes.
Ah, c'est la moto la plus vendue dans le monde.
Un bus de 1940 avec soupape à l'air, lanceur de soupape à l'air, c'était magnifique.
Et d'autres machines aussi, non?
Ouais, il y avait des Zeus, les plus grosses marques, c'était quand même Oural. Oural, les Dniepr, soit roue du side motrice ou non, mais c'était quand même... Et par contre, il y avait quand même énormément de bécanes solo. Il y avait beaucoup de side, mais vu le temps, de toute façon, c'est tout à fait logique et normal.
Et rappelle-nous, Jean-Yves, pour ceux qui nous rejoignent, donc l'Authentique, cette année, ça se passait où? Parce que je crois que chaque année, le lieu change.
Et il avait changé encore une fois, c'était encore beaucoup plus loin. C'est vraiment perdu dans la montagne, dans le sud du parc des volcans. En plus de cette année, normalement, il y a eu une réception à Arde-sur-Couze. Et puis on a les coordonnées exactes du lieu de rassemblement. Et là, cette année, il y a eu un micmac, ils n'ont pas pu faire ça. Donc c'était dans un patelin, encore 20 bornes au-delà, dans la montagne, les petites routes, tantôt au soleil, tantôt à l'ombre. Bref, c'est des routes un peu emmerdantes parce que on ne sait jamais si le blanc qu'il y a sur la route, c'est du sel ou du givre.
Ah oui.
Il faut bien que ça soit une aventure quand même.
Ah ouais, c'est pas donné à n'importe qui quand même. Hein. J'espère qu'il fait beau à Lille.
Impeccable.
Moins 3 ce matin. Donc c'était les conditions là que tu viens de décrire, c'était un peu ça, sauf que c'est moins sinueux.
Ouais, j'aurais dû planter ma tente dans le jardin.
Ouais, c'est moins fun. Hein.
C'est rien, c'est pas grave.
J'aurais pas vu toutes ces bécades et tous ces sides.
Voilà, et c'est tira aux éléphants, t'auras qu'à aller aux vieux éléphants, comme ça au moins t'auras de la neige.
Ah oui, les éléphants en Autriche, parce que sur le ring, c'est pas la peine, c'est bourré d'Allemands qui descendent leur attelage d'un plateau avec un gros camping-car. Ils s'arrêtent à 3 bornes du circuit, ils descendent l'attelage et puis ils arrivent tout fiers sur le circuit en disant on fait des éléphants. Là, c'est pas tout à fait ma philosophie de la mécane.
Non, mais en Autriche, t'as quand même de la neige.
La roquette, elle a pris combien de kilomètres là, en 3 jours?
Bah là, en 3 jours, elle a pas pris énormément de bornes, 1200 pour l'instant. Ouais,
quand même.
Ça fait un petit 2005.
Il y a des étrangers ou c'est strictement français?
Ah non, il y avait un contingent d'Italiens, mais formidable d'abord. Le premier mec qui m'a adressé la parole, c'était « Ah, j'en ai une comme ça, en italien. » Heureusement qu'il y avait un copain pour traduire. Et donc, il y avait des Espagnols, des Anglais aussi, pas mal, des Luxembourgeois. Le gros contingent, c'est quand même français, hein, mais il y avait quand même des étrangers. Hein.
D'accord.
Puis comme d'habitude, la pub pour toutes les hivernales du coin, le cristal, les burles, etc., etc. Ça, c'est...
Bon, faut choisir. Et alors, ceux qui ont raté ce rendez-vous-là, bon, c'est l'autre. Ils ont une séance de rattrapage?
Par contre, en prenant de l'essence, je me suis arrêté. Il y avait un side qui en revenait comme moi. Et il m'a dit que à Samara, à Amiens, enfin dans les alentours d'Amiens, il y a une hivernale en janvier ou février. Donc ça serait peut-être à creuser parce que là, effectivement, c'est la porte à côté. Hein. Faire 100 bornes pour faire une hivernale, c'est de la partie de plaisir.
On n'a pas le temps d'avoir froid.
Ça tombe bien puisque justement on est en train de refaire le calendrier Kikinkou et dans les pages de janvier et février on annonce toutes les hivernales emblématiques et on aura aussi celle d'Amiens. Donc je t'invite à consulter le calendrier quand il sera sorti. Merci Jean-Yves pour ton témoignage.
À tous les auditeurs et puis bonne fin d'émission.
Voilà, et on te retrouvera le mois prochain.
Sans problème.
Ok, merci Jean-Yves.
Allez, la bise à tout le monde.
Attention aux autos. Hein.
Just don't forget me, yeah.
Vous êtes bien sur Kick un coup, le magazine de la moto, tous les dimanches de 11h à 12h30. Petite info, puisque je parlais calendar tout à l'heure, donc on est en train de refaire le calendrier. Surtout, amis motards qui organisaient des manifestations, n'hésitez pas à nous donner les infos, hein, c'est votre calendrier. Donc vous nous donnez les infos, vous allez sur le site, vous tapez K1C Kick un coup sur un moteur de recherche et vous aurez un formulaire sur la page d'accueil du site à droite, un formulaire avec le visuel du calendar pour nous donner toutes vos infos qui seront publiées gratuitement, je le rappelle, dans le calendrier des motoclubs qui est distribué à 35 000 exemplaires dans tous les lieux fréquentés par les motards de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, les Hauts-de-France en quelque sorte. Et justement, quand on parle d'infos, on en avait déjà parlé il y a quelque temps, je vous le rappelle, samedi prochain à la Grand Place à partir de 15h30, nous aurons un guéluron, on va dire, habillé en caleçon, Gilles Détailleur pour ceux qui le connaissent, et qui donc prévoit cette manifestation. Il y aura notamment des Anglais, etc. Il y aura pas mal de gens qui viendront pour justement sensibiliser l'opinion publique au problème du musée Champleur de la moto à Amnéville, où on avait déjà parlé, hein, et qui on voudrait sauver parce qu'il y a des motos très rares, des motos françaises qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On revient au sommaire du Motomag, hein, Christophe, avec ce magnifique magnifique Sportser dans la rubrique Occasion.
Voilà, alors chaque mois dans Motomag, vous retrouvez donc toujours une rubrique Occasion. On va parler tout de suite après de cette Harley XL 1200 Sportster et une rubrique Nostalgie qui a déjà un an, voire un an et demi, où on présente la Honda 450 Bomber, Black Bomber.
Black Bomber.
Voilà.
Elle porte ce nom à cause de son réservoir.
Alors, 50 ans aujourd'hui, et donc c'était la première, c'était un bicylindre et la première moto à double arbre à cam en tête. Et le chroniqueur, le journaliste de Moto Magazine, donc dit « J'ai rendu avec regret cette mamie à son propriétaire. On comprend mieux l'impact qu'eurent les motos japonaises dans les années 60. Propre, bien finie, fiable, agréable à mener, elle s'adressait à tous. » Menant à la pratique de la moto le plus grand nombre, l'âge d'or de la moto, c'était à ce moment-là.
Bah, le freinage, il faut faire attention quand même. Hein.
Voilà, bah oui, une moto de 50 ans.
Elle a 50 ans, quoi.
Voilà, tout à fait. Alors, là...
En parlant de motos qui ont plus de 50 ans, hein, le Sportster, justement.
Voilà, alors celle-là, elle a 30 ans. Elle a 30 ans, mais elle est toujours au catalogue.
Ouais, mais il date de 57, hein, le modèle.
Oui,
le
oui, tout à fait. Non, mais celle qui est présentée, effectivement, dans le modèle d'occasion. Oui, bien sûr, il est fait référence au modèle 57, mais c'est donc un panel en revue de ce modèle, donc depuis 1986 jusqu'à nos jours. Et donc, on s'est adjoint les compétences d'un professionnel, et ça tombe bien, il en a une actuellement dans l'atelier, en révision, et donc il va nous aider à y voir un peu plus clair. Alors, cette moto, Romain, tu l'as conduite, je pense que tu as dû l'essayer. Alors, parle-nous un peu du modèle. Donc,
comment dire, c'est un modèle qui est très fin, qui est relativement léger en fait pour une Harley.
Que 250 kg, c'est
il ça fait que 250 kg. C'est, pour une Harley, c'est ultra light, quoi. Donc, c'est vraiment un truc génial.
Un modèle 2003.
Là, moi, ce que j'ai dans l'atelier actuellement, c'est un modèle 2003. Alors j'ai pu tester, on va appeler ça la petite sœur, le 883, pareil en centième anniversaire. Et là ici, j'ai la grande sœur, donc le 1200. Comment dire, aussi bon. Beau l'un que l'autre.
Oui, en modèle donc, donc un custom là. Mais avec des équipements.
Là, la moto est rééquipée en plus, donc un mini Happinger, les commandes très avancées, voilà quoi. Donc oui. Quelque chose de bien fini, beau. C'est surtout ça, et plein de chrome.
Alors justement, dans l'article, on nous présente en fait les déclinaisons multiples et variées qui ont été faites de ce modèle, hein, en roadster, en bobber, même en sport. Donc là, c'est une moto, d'ailleurs, c'était intéressant, on en parlait tout à l'heure, c'est un propriétaire qui avait raccroché la moto pendant un certain temps.
Pendant une quinzaine d'années, oui, et là, qui s'est décidé à reprendre, et s'est dit, c'est celle-là et pas une autre.
Voilà, donc... Et alors, il y a vraiment une cote d'amour sur cette machine. D'ailleurs, Jean-Pierre Théodore, dont je parlais tout à l'heure, qui roule avec ce modèle de 92, lui, disait qu'il avait un mal fou à trouver. Alors, des pièces, il en trouve, mais à quel prix ? Et effectivement, il y a une cote très soutenue du modèle. On ne trouve rien à moins de 5000 euros. Hein, donc la fourchette, effectivement, là, même 6500 euros à 11000 euros pour des modèles d'occasion. Sachant qu'aujourd'hui, l'équivalent en neuf, il est entre 12 et 13 000 euros.
Ça tient bien la cote. Donc,
absolument.
C'est aussi un investissement, finalement.
C'est un investissement. J'ai un autre client qui roule sur aussi un 48. Il l'a acheté. Il sait qu'il peut le revendre et se racheter une bécane derrière sans problème. Il l'a acheté 12 500. Il va la revendre 8 500.
Voilà. Au moins.
Ouais. Au moins. Ouais. Avec, on va dire, il a quoi, là, une trentaine de mille de bornes au compteur. Voilà. C'est comme si la bécane n'avait pas décoté.
Il a bien marché, ce modèle, le 48.
Le 48
c'est
aussi,
super bien vendu, d'abord pour son look, en fait.
Pour son look, ouais.
Et puis, bon, les commandes ne sont pas trop avancées.
C'est super facile à prendre en main, en fait. Donc,
c'est relativement polyvalent.
C'est pareil que le Sportster que j'ai à l'atelier, là, très, très facile à prendre en main. Et j'ai eu aussi l'occasion de faire 900 km, puisque avec un de mes potes, on a décidé de faire nos 25 ans et de faire une virée en Harley. On a fait nos 900 bornes là-dessus. Je suis parti directement sur le Sportster parce que c'était quelque chose de léger, quelque chose de maniable. À l'époque, je faisais 60 kg pour 1m80, donc j'étais pas super super musclé. Ça a pas changé, je vous rassure. Mais donc naturellement, je me suis dirigé vers ce Sportster parce que je dirais une prise en main facile et une moto hyper évidente à conduire, quoi. Enfin, presque un vélo pour une bécane qui paraît assez, assez lourde. Quoi. Donc,
Ouais, bah, y a pas de plastique dessus.
C'est vrai qu'il n'y a pas de plastique. Ah, ça, c'est une pièce. Enfin, le plastique n'existe pas. Quoi. Donc, ouais.
Donc un placement plaisir et un placement, bah, tu viens de nous en donner la démonstration intéressante bah, avec des décotes qui sont très limitées. Mais pour des motos dans leur parfait état d'origine, c'est pour ça qu'au niveau des transformations, il faut des choses réglo.
Il faut éviter les bidouillages, c'est tout.
Ouais, ouais, voilà, il faut que ce soit vraiment bien fait. Quoi.
Par un pro notamment. Quoi. Voilà. Tu restes avec nous, Christophe. On
donc
se passe
vous,
un petit.
Vous retrouverez cette présentation avec les modèles et la concurrence, parce que c'est aussi intéressant de voir comment les marques concurrentes ont tenté.
Ils ont copié, de... mais jamais égalé.
Exactement. Et on terminera donc l'émission en parlant voyage et en allant
en Inde,
sur
le toit du monde,
fort de l'Himalaya.
À tout de suite. Pour clore ce chapitre sur le sommaire du Motomag, nous allons partir un petit peu à l'aventure, Christophe.
Oui, alors, pour introduire ce sujet, je dirais éloge de la lenteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une présentation de Yann Morvan, donc, qui a sorti un superbe ouvrage de photos qu'il avait prises dans les années 60.
Photographe de guerre.
Ouais, ouais. Alors ça, c'était son métier, mais il a aussi été motard de tous ces groupes un petit peu équipés rebelle. Sauvages, rebelles, voilà. Et donc, il évoque justement l'éloge de la lenteur. Et moi, j'aime bien ça, prendre son temps, même avec des machines problème sur lequel on va se traîner un peu sur la route. Et donc,
tout ça parce qu'il roule sur un vélo couché.
Eh bien, l'Odyssée Himalayenne, Himalayan Odyssey, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que la marque Royal Enfield, une marque indienne, donc, vous propose pendant 15 jours de parcourir les routes de l'Himalaya pour monter à 5600 mètres d'altitude. Et donc, c'est 1200 km que vous allez faire. Quand on fait 200 km, c'est comme si vous en faisiez 600 par chez nous. Hein,
à cause de l'altitude, notamment, alors, parce que c'est très physique. Quoi.
Voilà. Alors, vous arrivez déjà à Delhi, changement de décor, il fait 45, chaleur humide, donc, comme ils disent...
Odeur de fennec.
Vous imprégnez l'odeur de fennec pour tout le parcours. Et puis après, vous montez, et effectivement, le corps doit résister. Les machines, elles font ce qu'elles peuvent, hein, parce que c'est aussi pas simple. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est la description de la sortie de Delhi en autoroute. Quoi. Le gars qui se retrouve donc avec tout le groupe au milieu des camions, des containers maritimes sur roues. Et puis ensuite, il trouve des 125 où il n'y a pas un, deux, mais toute une famille, voire des animaux. Et puis, il se retrouve carrément avec un cornac sur un éléphant, un cornac en slip, pilotant un éléphant sur une autoroute. Bon, enfin, on est dans un autre monde.
Ouais, c'est ça aussi l'aventure.
Voilà, et vous trouverez donc tout ça présenté. Donc, toute l'équipe de jeunes, hein, parce que paradoxalement, c'est très prisé par les jeunes indiens, hein, donc et tout le monde est parti donc, sur les routes pour monter sur ces chemins de terre.
Et il y avait pas mal de femmes.
Hein, on nous présente donc la designer industrielle de Royal Enfield, 27 ans, qui roule en Himalayan, qui arrive en France. Hein, elle a été présentée cette année, mais je vois au Salon de Milan, elle a été présentée. Maintenant, elle est importée. Donc, qui est vraiment adaptée pour ce type de parcours. Et puis, la description, évidemment, du service d'assistance, hein, puisqu'il y a quand même eu quelques bobos aux machines et aux personnes.
Et quand tu vois l'état des routes aussi.
Tout à fait. Donc là, vraiment, un voyage, comme on en parlait tout à l'heure, écrit. D'ailleurs, c'est le journaliste François Barrois qui écrit. On sent les tripes, là. Hein, vraiment, il a dû aussi mouiller la chemise, je pense, pour arriver au bout. Et vraiment, une très belle expérience. Donc, il vous fait monter à 5600 mètres d'altitude. Et avec aussi ce côté zen, les temples bouddhistes, les moines.
Les décors. Donc, aussi les décors magnifiques.
Et là, il y a une superbe photo sur un plateau à plus de 4000 mètres d'altitude, où là, c'est off-road. Donc, vraiment à découvrir. Alors, toujours dans l'aspect touristique, Romain, tu as certainement eu des choix à faire et à nous recommander dans tes projets de sortie. Donc, est-ce que tu aurais une idée de balade à nous recommander?
Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est les Ardennes. Le petit côté montagne, pas trop loin de chez nous. Et la meilleure route, c'était celle qui longeait la Meuse, en fait. C'était juste magnifique. Voilà. C'est l'eau bleue et les virages qui sont juste à côté de l'eau. Bon,
Tu l'as fait à quelle époque ?
Au mois de fin mai. Fin mai.
D'accord. C'est mieux avec le soleil ?
Ah, bon. À mon avis, ça doit être mieux avec le soleil, quoi. Là, c'est vrai que la pluie, c'était pas le top, mais bon. Voilà, on fait que ce qu'on a. Hein.
Donc effectivement, une région très accessible. Et ouais. Si vous poussez un peu plus loin, eh bien, vous aurez dans la dernière page du MAG de ce décembre la présentation donc, du coordinateur de la FFMC 68, le Haut-Rhin, qui vous présente donc une boucle complète de 210 km. Vous pouvez faire en 4 jours et ça tombe bien. Et vous avez le flash code pour pouvoir accéder aux étapes motardes qui sont présentées donc par Moto Magazine. Et sur ce parcours, il y en a 4. Alors en général, c'est toujours, surtout là-bas, tu parlais des virages. J'ai des copains qui ont fait la route des crêtes. C'est vraiment le must. Hein, associé dans ce parcours, donc on descend beaucoup plus au sud jusqu'à Cernay. Et la route des vins, avec modération, bien sûr. Mais bon, 210 km en 4 jours, on a le temps de s'arrêter puis de faire une dégustation. Hein.
Oh, bon, carrément. Voilà.
Ça sera le mot de la fin.
Voilà, et puis notamment du côté de la Meuse, il y a aussi de la bière, je crois, c'est ça?
Ah, il y a Chimay, qui est pas très loin.
Oui, et puis on peut s'arrêter, on n'a rien à déclarer. C'est pas très loin.
Voilà. Donc encore un sommaire très riche alors finalement,
donc Christophe. Un double numéro, effectivement. Alors on n'a pas parlé des cadeaux de Noël, mais vous retrouverez donc tout un ensemble de lectures. J'ai parlé de l'ouvrage que sort Yann Morvan, de cadeaux aussi plus originaux les uns que les autres, avec vraiment des nouveautés, alors pratiques ou simplement pour le plaisir de se faire plaisir.
Ça sera le mot de la fin, puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je voulais remercier donc Romain d'être venu, hein, et d'apporter ton témoignage. Alors, vite fait, deux mots. J'ai cru entendre dire que tu avais suivi un parcours scolaire et études supérieures relativement brillant, et que donc tu étais notamment diplômé en mécanique générale, ouais. Mais que finalement tu pourrais être ingénieur en fait.
C'est ça, l'industrie, ouais.
Voilà, et que tu avais choisi plutôt de vivre de ta passion, de la moto, du deux roues, et que tu avais volontairement choisi ce métier-là.
Bah, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, et je ne me voyais pas faire autre chose en fait. Donc
tu as investi un peu, tu as aménagé un ancien local, c'est ça ?
J'ai aménagé un ancien local,
garage, c'est ça. Ouais. En tant qu'auto-entrepreneur, et puis...
Je suis encore auto-entrepreneur d'accord. pour l'instant, okay, quoi. Ouais. Peut-être un jour on passera sur un auto-statut, mais bon.
Ok, donc un bon vieux bouclard à l'ancienne. Hein.
Tout à fait. Alors, il faut le trouver, mais c'est pas difficile du tout, puisque c'est rue du collège. Donc, vous cherchez le collège, ça c'est indiqué. Et alors, c'est dans une impasse, mais bon, il y a quand même son logo. J'aime bien ton logo. Hein.
Merci.
C'est vrai que ça fait bouclard, et on aime bien ça.
C'est BR Motorcycle, garage.com. Comme ça, vous avez en même temps l'adresse et les photos.
Et vous le trouvez sur Internet avec une superbe photo de son lieu de travail.
Voilà, j'entends le générique. Merci. Merci d'être resté avec nous, d'être fidèle chaque dimanche. Merci à Laurent pour cette programmation musicale de qualité encore.
Pas de problème.
Merci à Christophe.
Alors, le mois prochain, pas de Moto Magazine, puisque c'était le numéro double
décembre-janvier.
Et donc, on recevra donc un président de club qui s'est formé à la FDM, qui nous expliquera. Alors, c'est un président national, il est d'ici, donc il viendra. Et puis, on recevra aussi Annick et Christian qui ont participé à Pendine, donc au Pays de Galles, une course sur sable. Et un autre invité, mais pour l'instant, je ne peux pas le confirmer.
Ok, mais de toute façon, dimanche prochain, vous venez nous écouter, hein, puisque nous sommes encore là dimanche.
Bien sûr.
Ok. Merci, bon dimanche. À dimanche prochain.